Alors voilà, donc bienvenue sur les 97.3 MHz. Vous écoutez bien sûr Radio Femmesois qui met depuis la commune de Basse-Pointe sur la Bonne FM, comme ça a été dit, 97.3 MHz. Nous avons un téléphone à votre entière disposition à consommer sans modération. C'est le 05 96 52 64 17. Nous sommes dans le cadre de l'émission Les Chroniques Bibliques et nous sommes cet après-midi, comme à l'accoutumée, avec Karine. Karine, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Comment ça va, Karine?
Ça va super bien, merci.
Et tu dis super bien, je note bien que tu as dit super bien.
Oui, exactement, ça va super bien.
Tu dépasses le stade d'être bien, tu es super bien.
Exactement.
Alors, Karine, nous allons parler d'un comme à l'accoutumée, d'un roi. Un roi, oui, qui a marqué son temps, qui a fait pas mal de choses, mais qui avait pas mal de singularités. Nous allons parler du roi
Alexandre le Grand.
Alexandre le Grand.
Voilà, on va parler d'un roi qui est l'une des figures les plus fascinantes et les plus marquantes de l'histoire humaine.
D'accord, Karine. Alors, nous allons laisser la place à Karine qui va commencer à nous parler de ce roi, Alexandre le Grand.
Oui.
Je crois que pas mal de personnes ont déjà entendu parler de ce roi-là, mais nous aurons plus de précision le concernant parce que, comme je disais, il y a pas mal de singularités, notamment par rapport à son âge, par rapport à l'étendue de son royaume, de ses conquêtes.
Exactement.
En si peu de temps. Je te laisse le soin d'en parler.
Alors, c'est un grand roi qui a accompli en même pas une dizaine d'années. Il a modifié le monde antique en même pas 10 ans. Alors, il est né à Pella en 356 avant Jésus-Christ. Il est le fils du roi Philippe II de Macédoine et de la reine Olympia.
Olympia.
Voilà, il a été élevé. Pour ceux qui ne voient pas où se situe Pella, c'est la capitale du royaume de Macédoine qui se situe au nord de la Grèce actuelle. Donc, Alexandre a été élevé par un grand philosophe qui s'appelle Aristote. Et Aristote a su, si vous voulez, je pense que le règne d'Alexandre se doit essentiellement à ce grand philosophe.
Il a été très marqué par l'enseignement.
Il a été très marqué et très influencé par lui. Alors, avant d'aller plus loin, on va voir qui sont les parents d'Alexandre et quelles sont leurs fonctions. Alors, le père d'Alexandre, c'est Philippe II de Macédoine. Il était le roi. C'était un fin stratège et un réformateur militaire hors pair.
Est-ce qu'on peut dire déjà que ce roi a pris un peu de son père?
Oui, alors on peut dire que Alexandre a hérité de la stratégie, de l'ambition et de la force de caractère de son père. Parce que Philippe II a transformé la Macédoine, qui à l'époque était un tout petit royaume pas vraiment intéressant, et il en a fait une grande puissance militaire qui se retrouve à dominer sur toute la Grèce et en unifiant toutes les cités grecques. Alors, ce qu'on appelle cité grecque, c'est tout ce qui est petite ville avec son propre gouverneur, son propre fonctionnement, ses propres lois. Et toutes ces petites cités sont régies par un seul grand chef, le roi. Et Philippe II, il a su faire de la Macédoine un grand pays. La mère d'Alexandre, c'était Olympia.
Ça me dit quelque chose, Olympia.
Oui.
Olympique, Olympia.
Alors, c'était une princesse d'Épire. C'est un royaume pas loin de la Grèce. Elle, alors, avant de devenir la quatrième épouse de Philippe II, Olympia, c'était une femme de caractère très pieuse et mystique. Ouais. Et elle a inculqué à Alexandre l'idée qu'il n'était pas le fils de Philippe II, mais bien le descendant direct du dieu Zeus.
Et il a cru ça?
Eh ben oui, puisque pour lui, il était intouchable. On va voir par la suite que Alexandre le Grand se prenait vraiment pour un dieu. Rien ne lui était refusé.
D'accord.
Absolument rien. Donc, c'est tout ce que sa mère lui a raconté qui a nourri son ambition démesurée. Voilà. Alors, on va voir ensemble ce qu'a fait Alexandre de sa vie. Autrement dit, nous allons étudier son épopée. Alors, comme je vous l'ai dit, il a été éduqué par le célèbre philosophe Aristote et il monte sur le trône à seulement 20 ans. Après l'assassinat de son père en 336 avant Jésus-Christ.
D'accord.
Une fois que le pouvoir d'Alexandre fut consolidé en Grèce, il se lance dans un projet fou, celui que son père avait déjà, c'est celui de pouvoir attaquer le gigantesque empire perse, qui se trouve être l'ennemi juré de la Grèce.
D'accord. Avec les Darius.
Voilà. Alors, l'Empire a été conquis de manière rapide. Avec une armée d'environ 40 000 hommes, il traverse le détroit qui sépare l'Europe de l'Asie. Et en quelques années, il enchaîne les victoires légendaires contre le roi perse Darius III.
D'accord. D'accord.
Donc, est-ce que tu pourrais nous dire éventuellement...
Justement.
Parce qu'il me semble qu'on en parle dans la Bible, mais mes connaissances à ce niveau-là ne sont pas très grandes.
Alors, ce que tu dis, c'est qu'il a osé attaquer
le royaume,
l'Empire perse.
Des Perses, oui.
Et dans la Bible, on ne donne pas son nom, mais on parle bel et bien d'un roi qui a oser attaquer l'Empire perse. Il faut savoir que la Perse régnait sous le monde entier, un royaume puissant, avec à sa tête Darius, les Darius, parce qu'il y a eu plusieurs Darius. Mais on voit que, effectivement, Daniel, qui vivait sous le règne de Nebuchadnezzar, je crois que tu l'appelles Nebuchadnezzar, et bien Daniel, qui vivait sous ce règne de Nebuchadnezzar, eh bien, il a vu en songe toutes les grandes monarchies, tous les grands royaumes qui allaient succéder à l'Empire babylonien. Il a vu, après Babylone, il a vu qu'il y aurait eu les Mèdes et les Perses avec les Darius. Et il a vu aussi Alexandre le Grand. Et il a vu Alexandre le Grand, lui Daniel, mais il faut savoir aussi que le roi Nebuchadnezzar aussi a vu Alexandre le Grand dans un songe, où il a vu une statue, une grande statue gigantesque, avec la tête en or qui représentait le roi et la poitrine en argent qui représentait les Mèdes et les Perses, mais le ventre en airain qui représentait l'empire d'Alexandre le Grand. Donc, alors les choses étaient déjà établies par Dieu, déjà. Ça devait se passer comme ça, parce que Dieu voulait que ça se passe comme ça. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que ces rois-là pensaient que c'était par rapport à leur force, à leur sagesse, pourquoi pas, à leur tactique, méthode de guerre, qu'ils ont pu conquérir autant de royaumes. Mais on voit que c'est Dieu qui a permis que certaines choses arrivent. Alors, pour revenir à Alexandre le Grand, comme tu as fait ta première étude sur Nebuchadnezzar, la deuxième sur les Mèdes et les Perses, et la troisième, tu l'as fait là, sous Alexandre le Grand. Mm-hmm. Alors, la Bible ne parle pas directement d'Alexandre le Grand, non, ne donne pas son nom. Mm-hmm. On n'a pas retenu son nom dans la Bible. À part dans les apocryphes, les livres comme Maccabée, comme Tobie, on parle ouvertement de lui beaucoup plus.
Okay.
Alors, mais dans Daniel, chapitre 8, à partir du verset, tu peux le dire pour nous, tu pourras le lire pour nous.
Oui,
à partir du verset 1, je veux t'arrêter.
Ok. Alors, on est sur Daniel.
Mm-hmm.
Chapitre combien ?
Chapitre 8.
Chapitre 8, à partir du verset 1. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision. Outre celle que j'eus
précise. Attends, tu vois bien que la troisième année du roi, du règne de qui ? De
Belshazzar. Belshazzar.
Qui était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Mm-hmm. Autrement dit, là, il est sous le règne de Babylone. Nous sommes d'accord.
Ok.
On regarde ce qu'il voit.
Donc, lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Lai. Je levai les yeux et je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, il avait des cornes.
Donc ce bélier-là, c'est l'Empire perse.
Ok.
Vas-y.
Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre.
On avait vu que c'est l'Empire Mède et Perse,
okay.
les Mèdes qui avaient la prédominance sur les Perses.
Et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant.
Mmh.
Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident. Et
un bouc venait de l'Occident.
Oui.
L'Occident, c'est l'Italie, la Grèce, enfin c'est l'Europe.
Ok.
Le bouc venait de là.
Et d'accord. Il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher.
Donc ça, ça nous montre déjà que
la rapidité, peut-être.
La rapidité.
D'accord.
Le bouc est tellement rapide, on a l'impression qu'il parcourt toute la terre, l'ampleur mm-hmm. de son règne, sans toucher la terre.
Sans la toucher, d'accord.
Voilà, continue.
Ce bouc avait une grande corne entre les yeux.
Mmh.
Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes.
Autrement dit, jusqu'à l'Empire perse.
Et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Mmh. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister.
Voilà. Donc on voit déjà là, je ne sais pas, je n'ai pas tous les détails de ce que tu vas nous dire tout à l'heure, mais on voit déjà là que après l'empire médo-persan, après l'empire de Mèdes et Perses, il y a un empire qui arrive et qui est comparé à un bouc qui est tellement rapide qu'il court sur toute la surface de la terre. On a l'impression qu'il ne touche pas la terre.
Mmh.
Et apparemment, tu vas nous le dire, Karine, cet empire-là, qui contre-attaque, qui attaque l'empire perse, le fait tellement rapidement et avec tellement de fureur qu'il arrive à vaincre le bélier. Je te laisse la suite.
Ah oui, alors, il arrive à vaincre le royaume des Perses avec seulement 40 000 hommes.
Mm-hmm.
Juste ça. Donc, il arrive à conquérir l'Europe et l'Asie.
Mmh.
Il va jusqu'en Égypte et remonte jusqu'à l'Inde. Donc, il est accueilli en libérateur en Égypte où il est couronné pharaon et où il fondera la ville d'Alexandrie.
Mmh.
Il poursuit ensuite sa route à travers la Mésopotamie, la Perse, et pousse ses troupes jusqu'aux frontières de l'Inde. au niveau du fleuve le fleuve s'appelle Indus. Malheureusement, il aura une fin prématurée. Hein, on rentrera dans les détails par la suite. Il est épuisé par les années de marche et de combat. Les soldats aussi n'en peuvent plus. Ils refusent d'aller plus loin. Donc Alexandre rebrousse chemin et meurt mystérieusement à Babylone en 323 avant Jésus-Christ, à l'âge de 32 ans, sans jamais avoir perdu une seule bataille.
Incroyable.
Voilà.
Alors, sa mort est décrite ici, toujours dans Daniel 8, Karine.
Oui.
Je crois que...
Le bouc... Voilà. Alors, on a la suite, hein. Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents déçus.
Et là, on voit ses successeurs, les quatre cornes qui se lèvent après lui. Ce sont ces quatre généraux, mais on aura l'occasion de voir ça une autre fois. Donc, et ça s'est passé très vite, comme on le voit là, le temps d'une lecture. Ça s'est passé très vite, un départ fulgurant, une jeunesse incroyable, une puissance aussi incroyable, parce que il est symbolisé par une grande corne.
Oui.
N'est-ce pas? Mais cette corne se brise.
Vas-y. Non, c'est ça. Je rejoins ce que tu dis, puisque je rappelle qu'il est monté sur le trône, il avait 20 ans. Il en est mort à 32. Donc il a régné pendant 12 ans, c'est tout. Et en 12 ans, il a réduit le royaume des Perses à néant. Il a conquis l'Europe, l'Asie et l'Inde. Et il s'est fait couronner pharaon en Égypte.
Oui.
En 12 ans.
Oui. En 12 ans.
Sans jamais avoir connu une seule
défaite.
Défaite, pas une seule.
Incroyable.
Donc, on va voir que l'impact d'Alexandre est colossal et il va littéralement changer le cours de l'histoire. Pour qu'on puisse bien comprendre. Alexandre a créé l'un des plus grands empires de l'Antiquité. En fusionnant les territoires, il va effacer les frontières de l'époque et son empire, qui s'étendait sur 5 millions de kilomètres carrés, englobant la Grèce, la Turquie actuelle, l'Égypte, le Proche-Orient, la Perse et une partie de l'Asie centrale et de l'Inde, son royaume va littéralement diriger le monde. Je rappelle qu'à cette époque, on n'avait pas encore connaissance des Amériques. Donc le monde s'arrêtait uniquement à la carte de l'Europe, le nord de l'Afrique et la partie est de l'Asie. Ça, c'était le monde.
Ah oui.
Une fois que... à la mort d'Alexandre, ne laissant pas d'héritier solide, cet empire s'est fragmenté en plusieurs grands royaumes. Les royaumes hellénistiques. Qui sont dirigés par ces généraux, les Diadoques, D-I-A-D-O-Q-U-E-S.
D'accord.
Donc ça rejoint ce que tu étais en train de dire là, dans Daniel, c'est ça?
Oui, Daniel chapitre 8, je crois.
Daniel 8, oui, chapitre 8, le verset 8, je crois.
Oui.
C'est ça. Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa corne se brisa. Donc, on ne nous explique pas ici comment il est mort.
Ouais.
Et mais... la science, l'histoire nous dit qu'il est mort mystérieusement.
D'une maladie bizarre.
Voilà.
Certains disent qu'il est mort épuisé.
Oui. Oui, alors, je ne sais pas si vous réalisez un petit peu le train de vie qu'il avait, hein, en, je sais pas si, si on réalise 10 ans, ça passe vite. Ça passe très vite. Il n'y a pas si longtemps, on était confronté au Covid. Ça fait déjà 7 ans. Ça passe très vite. Dites-vous que lui, en 10 ans, il a été à la conquête du monde. En 10 ans. Donc, il dort très peu. C'est un homme qui, n'oubliez pas, se prenait pour un dieu. Pour lui, il est le descendant direct du dieu Zeus. Je rappelle que Zeus, dans la mythologie grecque, c'est le dieu de la foudre. Et c'est le dieu, c'est le chef de tous les autres dieux. Donc, il se sentait très grand.
Invincible, carrément.
Voilà. Alors, grâce à Alexandre, l'impact le plus durable, c'est vraiment la période où son empire est fragmenté. En fondant des dizaines de villes, qui sont souvent appelées Alexandrie, il a implanté la culture grecque au cœur de l'Orient. Donc on a affaire à un véritable brassage culturel. Les cultures grecques, les cultures perses, égyptiennes et indiennes, elles se sont mélangées. Et c'est là qu'on va appeler cela la nouvelle civilisation, la civilisation hellénistique. Hellénistique, pour les gens qui nous écoutent, s'écrit H-E 2 L E accent aigu N-I-S-T-I-Q-U-E. Hellénistique. Alors, comme je vous disais, il a implanté la culture, mélangé les civilisations, donc forcément, la langue, elle aussi, sera commune. Il n'y aura qu'une seule langue, le grec, aussi appelée la koiné. Elle devient la langue officielle du commerce, de la diplomatie et surtout de la science de la Méditerranée jusqu'à l'Inde pendant des siècles. Et grâce à cette langue commune, les textes scientifiques ou évangéliques chrétiens pourront plus tard se diffuser partout. Alexandre aussi il a fait de grandes avancées. Par exemple, la ville d'Alexandrie en Égypte a une très grande bibliothèque. Alexandre est le premier à avoir mis la science, la culture, l'histoire à l'honneur.
On parle souvent de la bibliothèque d'Alexandrie, monsieur.
Exactement, c'est ça. C'est l'une des plus célèbres.
Mais il y a une parole qui dit que les Grecs cherchent la sagesse. J'oublie qu'il y a un verset qui en parle. Qui dit que les Grecs cherchent la sagesse et les Juifs cherchent pas de croix. Donc on voit que quand même, tu disais qu'il avait été impacté par le grand philosophe
Aristote, oui. Voilà. Oui.
Et est-ce que c'est pas pour ça qu'on dit que les Grecs cherchent la sagesse?
Alors, sûrement. Alors, en fait, ce dont tu parles, c'est les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. C'est ça.
Est-ce que quelque part, c'est pas pour ça qu'on dit cela?
Sûrement.
Parce qu'il y avait cette grande bibliothèque dont tu as parlé.
Oui, alors, Aristote, pour pouvoir comprendre comment Alexandre a eu un amour très tôt pour la culture, pour les livres, pour le savoir, pour la science, c'est grâce à son précepteur, grâce à son enseignant, si vous voulez, qui est Aristote. Alors, je ne vais pas présenter Aristote de manière trop précise. Aristote, comme je vous disais, c'est un philosophe. Il est né en 484. Il est mort en 322, toujours avant Jésus-Christ. C'est un philosophe et un polymathe grec de l'Antiquité. Alors, il est de l'époque de Platon. Ce sont des grands penseurs très influents dans le monde occidental, mais aussi très connus. Et ce sont des gens qui vont savoir aborder presque tous les domaines de connaissance de leur temps. La biologie, la physique, la métaphysique, la logique, l'arithmétie, l'éthique, tout, de tout. Mmh. Et aussi et surtout l'économie.
Oui.
Et chez Aristote, la philosophie est pour lui la base de tout. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'il explique que à l'origine, c'est l'amour de la sagesse qui nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Mm-hmm. Donc de manière, enfin, au sens plus large, si on a un amour pour la sagesse, forcément, on va chercher à en savoir plus sur soi-même et sur le monde. Mm-hmm. Donc, on va s'interroger sur le monde, sur la science et sur la science de toutes les autres sciences. Donc, Alexandre a été élevé. A été éduqué, a été formé par lui. Mmh. Donc forcément, il y aura dans les villes d'Alexandrie de très grandes avancées scientifiques. Mmh. Et c'est dans les villes comme Alexandrie en Égypte où on retrouve sa plus célèbre bibliothèque et aussi le phare. C'est de ces villes-là que les plus grands intellectuels du monde antique verront le jour. Mmh. Et ce sont les avancées scientifiques qui ont pu être faites sous le règne d'Alexandre qui ont permis des échanges de connaissances inédites entre les savants grecs, babyloniens et égyptiens.
D'accord, mais par rapport à tout ce que tu dis, Karine, on peut penser que c'est un homme de guerre, redoutable.
Oui. Oui, alors il a fait de grandes conquêtes. Mmh. Alors il y en a eu contre le roi perse Darius III. Mmh. Il a eu de grandes batailles, dont trois qui ont été majeures. Donc il y a eu la bataille Granique, la bataille Issou et la bataille Gaugamel, je crois.
Alors il faut dire aussi que je te disais que Daniel l'a vu deux fois, ce roi-là.
Oui.
Il l'a vu une fois comme le bouc,
oui,
qui fonçait sous le bélier. Mais quand on lit Daniel chapitre 7 verset 6, il le voit autrement, sous une autre forme. Il le voit sur la forme d'un léopard. Et là encore, dans cette image, mm-hmm, que Daniel voit, on voit encore la rapidité et puis la puissance, hein, du léopard, oui, qui est attribuée à Daniel. Daniel chapitre 7, pas à Alexandre le Grand. Daniel, d'accord, chapitre 7, verset 6, tu peux lire ?
Alors, ça dit, après cela, je regardais. Et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement
ça,
fort.
Ça, c'est l'Empire romain.
Non, d'accord.
Mais il voit déjà le léopard, mais déjà le léopard est un animal hyper rapide.
Oui. Et en plus, il a des ailes.
Il a des ailes. Et on parle de ce qui s'est passé après sa mort, des quatre généraux qui ont pris la relève. Regarde, je crois que ce léopard a quatre têtes. Oui. C'est bien ça, hein?
Oui, oui, oui. Alors, cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Mmh. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici un quatrième animal. Et là, c'est l'Empire romain, c'est ça?
L'Empire romain, c'est ça, oui.
D'accord. Ouais.
Et mais ici, on voit aussi. C'est vrai que la Bible en parle un peu partout, surtout dans Daniel, mais aussi, je crois, dans Apocalypse, on parle de lui dans un autre langage. Il est associé justement à une vision que Jean a eue. Jean a vu une bête qui sort de la mer et qui était semblable, qui avait la gueule d'un lion, qui était semblable à un ours, qui avait les pieds d'un léopard, etc. On voit, d'après la prophétie de Jean, qu'à la fin des temps, il y aura une forme de gouvernance qui va s'établir avec, si tu veux, la force des Perses, l'ours, la rapidité d'Alexandre le Grand, le léopard, et la puissance romaine, et la royauté, la majesté de l'Empire babylonien, le lion. Alors, si tu veux, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mmh. Et je me suis posé la question, parce qu'il y a eu plusieurs royaumes sur la terre depuis un an, mais ces quatre royaumes-là ont marqué l'époque du peuple de Dieu. Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains.
Et les Romains.
Ces quatre empires-là ont eu un impact assez singulier, assez particulier sur le peuple de Dieu. Et quelque part, à la fin des temps, on se rend compte qu'il y aura une restauration dans une seule entité de ces quatre systèmes de monarchie. Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de ça, Karine? Qu'est-ce que tu peux dire de ça?
De ce que j'ai pu retenir de toutes mes recherches, ce sont des royaumes qui forcent à la fois l'admiration, mais en même temps une certaine terreur. Prenons l'exemple d'Alexandre. À 20 ans, il transforme le monde antique. 20 ans.
À 20 ans, oui. À 20 ans.
À 20 ans.
Quand on rencontre un jeune de 20 ans de nos jours, il n'est quasiment pas responsable.
Mais non, parce qu'il est encore en train de faire ses études. Ou alors il cherche un emploi.
Et encore.
Donc c'est pas. Et encore. Donc c'est pas facile.
Ah, oui.
Celui-là, à 20 ans, il part à la conquête du monde. À 20 ans, il va libérer les cités grecques d'Asie mineure. Il va avoir sa première victoire sur le fleuve, près du fleuve Granik.
Alors, Karine, quand tu dis ça, quand tu insistes sur le terme 20 ans sous son âge, et quelque chose me monte à l'esprit, est-ce que je m'interromps deux secondes pour t'en parler, parce qu'avant que j'oublie.
Mais vas-y.
Et on sent derrière ça une force mystique, une force mystérieuse. Même tu disais que sa mort était mystérieuse. Parce que quelque part, Dieu est derrière ça, c'est vrai, puisque Dieu en a parlé à Daniel. Mais en même temps, sa mère, de par ses dires, sa mère l'avait quelque part mis en contact avec le monde occulte.
Oui.
Et que sa mère lui dit qu'il descend, qu'il est un ancêtre, qu'il est le petit-fils ou le fils de
Il est le fils direct de Zeus. Et, ah, que, voilà. Et que le monsieur là, Philippe II, n'est pas son père.
N'est pas son vrai père.
Voilà.
Et que c'est Zeus son vrai père.
Voilà. Et c'est tout ça qui va lui donner de l'ambition.
Mais parce qu'à 20 ans,
pour
faire tout ça,
il peut conquérir le monde. Il meurt à 32 ans d'une fièvre,
Un truc encore plus bizarre.
Un truc stupide, quoi. Une, une, une fièvre. Enfin, il a dû attraper à travers toutes ses conquêtes. Tout est parti de l'Inde. Il a jamais arrêté de se battre.
Oui.
Une fois qu'il a réussi à prendre le royaume des Perses, qui est extrêmement grand, il s'est attaqué à l'Inde.
Oui.
Et c'est arrivé en Inde que les soldats ont dit « On ne veut plus aller plus loin, on est fatigué, on n'en peut plus. » Et c'est de là qu'il a rebroussé chemin, et on suppose que c'est sur la route du retour qu'il a chopé
une maladie
et qu'il a eu la fièvre et que finalement, il en est mort. Mais là encore, il avait 32 ans. 32 ans, il était plus jeune que moi.
Ah ouais, il avait déjà fait autant de choses.
Il avait déjà fait autant. Il a été couronné pharaon en Égypte.
Ah ouais.
Alexandre, oui. Pharaon.
Oui, oui.
C'est pas rien.
Ah ouais.
Ouais. Donc, non, c'est un homme... c'est un homme qui a fait de grandes choses. Alexandre le Grand comme je disais, l'un des dirigeants les plus impressionnants, les plus rapides, les plus techniques. C'est l'un des plus grands conquérants de l'Antiquité. Vraiment, il va multiplier les conquêtes et il va surtout faire une chose que très peu arrivent à faire, il va agrandir son royaume. Il va agrandir son royaume. Je crois que après lui, Jules César qui sera le plus... Le conquérant le plus impressionnant.
D'accord. Karine, on fait une pause musicale, on se retrouve juste après.
Bien sûr, à tout à l'heure.
Ils ont bâti des empires, conquis des nations, changé le cours de l'histoire. Qui étaient réellement Darius, Alexandre le Grand, Artaxerxès, Hérode et ces grands souverains qui ont marqué leur époque? Quel rôle ont-ils joué dans l'histoire du peuple de Dieu?
Dans les chroniques de l'histoire biblique, Karine, professeure d'histoire-géographie, vous emmène à la découverte de ces personnages qui ont croisé le destin d'Israël.
À travers une comparaison entre les sources historiques et le récit biblique, chaque émission vous permettra de mieux comprendre le contexte, les événements et les prophéties qui ont façonné l'histoire. Les Chroniques de l'Histoire biblique, une émission qui fait dialoguer l'histoire et les Écritures. Pour mieux comprendre le passé et éclairer le présent. Rendez-vous très bientôt sur notre antenne, tous les mercredis de 14 à 15 heures ce mois de juillet et également au mois d'août 2026.
Donc, De retour sur les 97.3 MHz, chers auditeurs, nous sommes en direct, chers amis. Alors, nous allons retrouver Karine pour la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Karine?
Alors, en résumé, on va dire que Alexandre a mondialisé la culture grecque et a ouvert une ère d'échanges culturels et commerciaux sans précédent entre l'Europe et l'Asie. Pour aller plus loin, sur ce personnage historique, il est important de comprendre la relation qu'il y a entre Alexandre et Aristote pour qu'on puisse voir et comprendre la tactique de conquête d'Alexandre. Alors, je vous donne une petite anecdote sur lui. Alexandre le Grand, on ne sait pas s'il était grand ou s'il était petit. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était très beau. Le surnom de Alexandre le Grand lui vient du fait que on n'avait jamais vu un roi aussi rapide et aussi déterminé dans les conquêtes qu'il a eues. Donc, on le voyait comme un grand conquérant. Et c'est pour ça qu'on le surnomme Alexandre le Grand. En résumé, Alexandre, c'est un homme qui a voulu faire la fierté de son père et surtout continuer ce qu'il avait déjà commencé, c'est-à-dire anéantir son pire ennemi, l'Empire perse. Si nous avions une inspiration à prendre de lui, c'est que lorsqu'on a un objectif, il faut faire exactement comme lui. On s'y tient et on ne lâche pas. Quoi qu'il nous en coûte, on reste focus sur ce qu'on souhaite faire, sur là où on veut arriver. Et nous, en tant que chrétiens, c'est là où on doit mettre notre foi à l'épreuve. On a un objectif, on fait comme Alexandre, on part conquérir cet objectif. Mais le petit plus que nous on a, c'est qu'on a Dieu. Et donc, en y allant avec le culot d'Alexandre et la foi en Dieu, est-ce qu'on ne va pas obtenir ce pourquoi on se bat en réalité? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je crois que à travers son histoire, je vois la persévérance. Je vois la prédestination aussi, mais je vois beaucoup de persévérance, beaucoup de travail, et un homme qui croit, qu'il avait des convictions, un planificateur,
oui.
Quelqu'un qui savait planifier, qui savait où il voulait aller, et un visionnaire.
Oui.
Parce qu'on aura beau dire, et puis un homme cultivé, certainement, sans
oui,
doute.
Très.
Cultivé. Non, aussi un jeune homme ambitieux. Mais je, malgré toutes ces qualités indéniables, mais je me dis qu'il y a un truc derrière ça, il y a du subnatural derrière ça. Dans le bon et le mauvais sens, en fait. Parce que je crois que Dieu a agi dans cette histoire, cette histoire fulgurante.
Mm-hmm.
Parce que Dieu voulait vraiment ça. Il en a parlé à Daniel. Et on voit que son royaume a marqué non seulement son histoire, mais marque l'histoire aussi à venir, puisque on va encore retrouver du Alexandre le Grand dans l'histoire de l'humanité, dans le terminus de l'humanité.
Oui.
Mais comme je t'ai dit, je vois de la sagesse, je vois un plan, un planificateur, quelqu'un de méthodique, je vois un conquérant doué de manière extraordinaire, je vois un gros bosseur. Et quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux.
C'est surtout ça, en fait. C'est surtout. Alors, le trait de le trait de caractère de ce personnage qui me pose problème, c'est le fait que il est sans foi ni loi.
Oui, oui.
Sans foi ni loi. Il regarde pas à droite, à gauche, s'il y a moyen de pouvoir trouver un terrain
d'entente.
Non, il va, il tue, il prend.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et ça, c'est pas une bonne stratégie. Alors, je ne suis pas rentrée volontairement dans certains détails à la radio, parce qu'on est quand même sur une radio chrétienne.
Ah ouais.
Mais c'était pas un homme bon, hein, un homme saint.
Ouais.
Je
ouais.
le dis, ouais. Ce n'était pas un homme saint, ce n'était pas un homme très bon.
Ouais.
Il avait des pratiques occultes ouais, très ouais. particulières.
Ouais.
Il avait une vision très libertine de la vie.
Oui, oui.
Donc rien n'a de la valeur à part lui-même.
Oui.
Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui, en fait.
Ah ouais. Il est Dieu, pour lui, il est Dieu.
Dieu. Donc. Mmh.
Il fait ce qu'il veut.
Le monde s'arrête quand lui, il s'arrête.
Oui. Ouais.
Donc là encore, on pourrait tirer un message de ça, savoir être humble.
Mmh.
C'est pas parce qu'on sait faire plein de choses, c'est pas parce qu'on a fait les meilleures études, qu'on a eu les meilleurs précepteurs, les meilleurs enseignants, qu'il faut écraser les autres autour.
Mmh.
Il faut apprendre à vivre avec avec les autres. Même s'ils n'ont pas fait d'études aussi longues, ils ont quand même leur utilité. Parce que l'aller, c'est à toi, le retour, c'est pas à toi.
Ah,
tu
oui.
sais pas.
Ah, oui.
Alexandre, est-ce qu'il aurait imaginé qu'à 32 ans,
il serait mort.
Après avoir conquis tout ça de grands territoires, après avoir été fait sacré pharaon, il meurt d'une fièvre.
Ah ouais.
Une fièvre, c'est pas comme si
il a résisté à tant de javelots, à tant d'épées
pour mourir. Pouvoir mourir d'une fièvre, une simple fièvre. Alors, à l'époque, vous allez me dire oui, mais peut-être que la science n'était pas aussi avancée que maintenant. C'est vrai, mais la science était suffisamment avancée pour savoir soigner une fièvre.
Ah oui, clair.
Mais là,
donc son ascension n'est pas naturelle, même sa mort n'est pas naturelle. À force, comme tu disais, tu parles de science occulte, d'occultisme, entre parenthèses, dans sa vie, à force de jouer avec le feu, finit par se brûler. Hein.
C'est ça.
Hein?
Ouais. C'est ça. Mais je crois que c'est ce qui lui est arrivé. Et si on devait avoir une conclusion biblique sur ça, ce serait quoi, selon toi?
Ce serait que tout est vanité et rien que vanité.
Amen.
Et je terminerai avec cette citation biblique. Dieu a dit à Nebuchadnezzar, lorsqu'il s'entêtait à vouloir dire que ce royaume-là, que c'est lui qui l'a bâti, etc. Dieu lui a dit par la voix d'un ange, Dieu règne sur le règne. Dieu règne sur le règne des hommes. Et il le donne à qui il veut. C'est Dieu qui décide, en fait.
Amen.
Conquérant, puissant ou pas, en fait, si Dieu avait dit tu n'iras pas, tu ne feras pas, rien ne se serait passé.
Amen.
Dieu a voulu que ça se passe ainsi. On a vu, on a assisté sur son âge. Et là encore, peu importe l'âge, peu importe notre condition physique, peu importe le nombre d'années que nous avons sur notre tête, comme on dit, si Dieu dit qu'il nous fait faire ça, l'âge ne va pas nous arrêter.
Amen.
On le fera.
Amen.
Et Dieu avait déjà parlé à Daniel de l'ascension du roi Alexandre le Grand. C'est ce qui s'est passé. Que son nom soit béni. Amen. Karine, merci beaucoup. Je te laisse cette fois-ci dire au revoir au peuple de Dieu qui nous écoute.
Bien, déjà, je tenais à vous remercier pour toute l'attention que vous portez à cette émission. N'hésitez pas à faire des retours à Aniel s'il y a certains points que vous souhaiteriez que j'améliore ou que Je travaille un peu plus dessus. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Et puis, que Dieu nous bénisse.
Merci, Karine.
Ils ont bâti des empires, conquis des nations, changé le cours de l'histoire. Qui étaient réellement Darius, Alexandre le Grand, Artaxerxès, Hérode et ces grands souverains qui ont marqué leur époque? Quel rôle ont-ils joué dans l'histoire du peuple de Dieu?
Dans les chroniques de l'histoire biblique, Karine, professeure d'histoire-géographie, vous emmène à la découverte de ces personnages qui ont croisé le destin d'Israël.
À travers une comparaison entre les sources historiques et le récit biblique, chaque émission vous permettra de mieux comprendre le contexte, les événements et les prophéties qui ont façonné l'histoire. Les Chroniques de l'Histoire biblique, une émission qui fait dialoguer l'histoire et les Écritures. Pour mieux comprendre le passé et éclairer le présent. Rendez-vous très bientôt sur notre antenne, tous les mercredis de 14 à 15 heures ce mois de juillet et également au mois d'août 2026.
Shining fields, hallelujah.